Mystère, vous êtes, c'est Jeudi Noir, une émission un petit peu particulière parce que deux de nos fidèles compagnons nous ont lâchés pour ce soir, donc nous avons décidé de faire une petite émission, comment dire, musicale. Alors, nos goûts musicaux sont pas forcément beaucoup plus écoutables que le reste de nos émissions, ça va être essentiellement du punk américain, dans les années, fin des années 70, jusque dans les années 90, un tout petit peu. On s'appuie sur, en partie, enfin, déjà sur notre passé musical et aussi sur des livres, évidemment, parce qu'on vous parle aussi souvent de livres. En particulier, un livre qui s'intitule Going Underground, donc de George Urshela, je crois, qui a été publié en français il y a peu de temps. Et qui retrace l'histoire du mouvement punk américain entre 79 et 1992. Voilà. Donc, il a été édité par une maison d'édition un peu bizarre, Ritrut, je crois. Donc, l'auteur, oui, c'est George Urshela. Donc, Going Underground, où il fait tout un historique, finalement, du mouvement punk aux États-Unis entre 79 et 92. Alors, il y a aussi un autre livre qui est très très intéressant si vous aimez ce genre de musique et si vous voulez vous instruire à ce sujet. C'est Please Kill Me, qui est édité aux éditions, je crois, non c'est pas Aden, je l'ai pas sous la main, c'est un petit peu improvisé tout ça, et où il retrace l'histoire du mouvement punk en situant les origines aux États-Unis, au travers de groupes comme les Stooges, dont vous avez pu entendre un morceau un peu bizarre, on se demande si c'est pas une erreur de gravure sur le CD, puisqu'il y avait beaucoup de choses en double, hein, les Stooges, MC5, et tout un tas d'autres groupes de ce genre. Ah, le technicien José veut vous parler, je vous le passe.
Oui, bonsoir. Juste à propos de Please Kill Me, petite actualité quand même, puisqu'à Montreuil, si vous n'êtes pas loin, dans les semaines qui viennent, je crois que c'est la semaine prochaine, dans deux semaines, hein, renseignez-vous, Théâtre de Montreuil, il y a une sorte de pièce de théâtre musicale inspirée justement de Please Kill Me. On peut voir des petits extraits sur Internet. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais si la période vous intéresse, justement, c'est un peu l'itinéraire de quelqu'un qui a connu les débuts du punk aux États-Unis et justement qui est inspiré de ce bouquin-là, dont Michel parlait.
Et donc, pour votre information, sachez que Please Kill Me est composé uniquement de citations d'interviews de gens qui ont connu cette époque. Donc, entre la fin des années 60 pour le coup, pour Please Kill Me, et le punk anglais. Et donc, c'est des interviews qui sont accolées les unes aux autres et qui produisent parfois des drôles d'effets de. Comment dire, des collisions entre des visions de personnages. Assez contrasté, comme Jim Morrison et quelques autres. Donc, nous allons continuer à vous passer un petit peu de musique. On s'était dit qu'on allait essayer de vous passer The Angry Samoans, Inside My Head. Alors, c'est un morceau qui date de 79. Est-ce que, José, tu peux dire deux, trois choses supplémentaires sur Angry Samoans?
Bah donc c'est un groupe américain des origines, on parle un peu là plutôt du punk mais version hardcore, et donc c'est un des groupes pionniers, alors pas pour la vitesse mais surtout pour le son, puisque vous allez entendre une voix un peu particulière, une distorsion de guitare aussi assez particulière. Alors c'est très influencé par le rock garage, on va dire, et puis un peu après même par le blues rock, hein, un peu plus tard. Là, ça fait très 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 quepon américain classique, mais à l'époque c'était pas si classique que ça. Un son très particulier. Voilà, donc on vient d'écouter les Angry Samoans, donc les Samoans en colère, hein, de l'île de Samoa. Je crois qu'ils avaient trouvé ce nom-là en regardant simplement la première page d'un journal, comme beaucoup de groupes à cette époque-là qui prenaient des noms qui leur tombaient sous les yeux. On va faire un petit peu chronologique, pas complètement, hein, c'est de la chronologie aussi avec certaines préférences personnelles. Mais alors les débuts du hardcore, on pourrait dire qu'il y a trois groupes pour le hardcore américain qui ont marqué. Hormis bon les papis hein, dont on a parlé comme les Stooges, Iggy Pop, on pourrait mettre aussi MC5 au niveau du bruit, on pourrait mettre les New York Dolls avec Johnny Thunders bien sûr. Pour l'esprit, on tient quand même un peu à Frank Zappa pour l'esprit justement politisé du punk hardcore qui a été une des grandes influences, on va dire, au niveau des paroles et de l'engagement, en particulier sur le do it yourself, hein, faites-le par vous-même, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, les trois gros pionniers, on va dire, du hardcore, ça serait les Bad Brains, donc formés en 76, vers 76-77, qui ont vraiment accéléré le rythme. Alors, ce qui était assez particulier pour ce groupe de Washington, c'était aussi que c'était des noirs avec un look rasta, puisqu'ils jouaient aussi du reggae. Avec des textes un peu politisés, mais un côté assez lourdingue aussi au niveau de la religion. Après, ils ont été pas mal critiqués pour leur homophobie et puis leur côté super rasta, assez lourd. Mais au niveau musical, voilà, c'est assez incontesté. Ça a été les premiers vraiment à aller vite. C'est influencé par des guitares métal. Le deuxième groupe, donc en 80, après, ça aurait été Minor Threat, hein, qui a vraiment donné tous les clichés même du hardcore, puisque ça a été pris, archi-repris. C'est toujours un modèle qui accourt aujourd'hui parmi les groupes de hardcore internationaux. Et entre les deux, eh ben, il y a eu Black Flag. Donc là aussi, Black Flag... en 78, on va dire, là où ils ont bien démarré, qu'on va pouvoir écouter dans un instant. Donc Black Flag, un groupe de Los Angeles, avec bah là justement pas des paroles forcément politisées, un peu parfois, mais beaucoup aussi de choses, de ce qu'on aura appelé bien plus tard le emo-core, le hardcore émotionnel, où ça parlait de ce qui se passe dans les tripes et du mal-être adolescent aussi.
It's not my imagination. I've got a gun on my back!
Donc vous avez écouté Revenge de Black Flag. Alors le chanteur à ce moment-là, c'était pas encore Henry Rollins. Henry Rollins qui deviendra un peu plus tard un peu célèbre avec c'est Chavo Pederast qui n'est pas resté très très longtemps dans Black Flag comme beaucoup d'autres parce que c'était un groupe essentiellement fondé par et dirigé par Greg Ginn. Donc Revenge. Maintenant, on va vous faire écouter donc comme on l'avait dit Minor Threat, donc Menace Mineure, où le chanteur est aussi quelqu'un de relativement connu, de très connu dans le milieu du hardcore. C'est Ian MacKay. Ian MacKay qui a fondé avec ses amis, ils ont fondé une émission une maison de production de disques qui s'appelle Discord, qui existe toujours, qui a très bien réussi d'une certaine manière parce qu'elle est restée fidèle à ses principes d'origine, c'est-à-dire zéro publicité. Des disques à des prix dérisoires et des concerts en règle générale pas chers et aussi des refus assez nets en termes de comment dire, ils n'accordent pas des interviews à n'importe qui, c'est-à-dire que si vous faites un petit fanzine édité dans votre garage sans publicité, il est fort possible que Ian MacKay vous accorde une interview. En revanche, si vous travaillez pour Rolling Stone, vous n'avez quasiment aucune chance. Et pourtant sa maison marche très très bien sans publicité. Alors autant, c'est pas une grosse maison d'édition évidemment, mais il fait ce qu'il veut. Et tout ça renvoie à quelque chose dont parle beaucoup le Jean-Georges Chalal, donc l'auteur de Going Underground, qui s'appelle, c'est l'éthique du hardcore ou du punk, c'est le do it yourself, faites-le vous-même. Et ce qui est assez intéressant quand on lit ce livre, qui est bourré d'anecdotes, mais aussi de réflexions parfois très pertinentes, c'est de voir qu'en fait, il y avait tout un tas de jeunes à ce moment-là aux États-Unis, pour qui la musique des studios, des majors, ne convenait absolument pas, qui sont tombés sur les Sex Pistols ou sur d'autres groupes comme ça, qui ont complètement accroché et qui se sont dit, on va faire la même chose. Et ils ne se sont absolument pas posé la question de savoir comment ils allaient le faire, ils ont juste essayé de le faire. Donc ils organisaient des concerts comme ils pouvaient, parce que très souvent ils étaient mineurs et qu'ils n'avaient pas le droit d'organiser des concerts le soir ou d'organiser des concerts dans des lieux où on pouvait boire de l'alcool. Mais donc ils se débrouillaient avec des sonos prêtés par des amis, d'amis. Ça se terminait souvent dans le chaos et la confusion, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et ils le faisaient souvent assez bien. Et dans cette société où on est souvent plus spectateur qu'acteur, je pense que c'est quelque chose d'assez sain. Se rappeler. Donc un morceau de Mind and Threats, on met lequel, José?
In My Eyes.
In My Eyes.
Let's get out everybody. Ready? 1, 2, 1, 2!
Ouais, donc vraiment pas le morceau annoncé, hein, une petite erreur d'un numéro. Donc, mais un morceau très bon aussi, mais là c'était une reprise donc par Minor Threat du groupe Wire, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, reprenait ce morceau le plus vite possible, sans connaître le morceau original qui était déjà assez bourrin par lui-même. Alors donc, Michel vous a parlé de Ian MacKaye, donc le fondateur de Discord et du Do It Yourself, une autre grande figure du hardcore américain, cette fois-ci du côté de San Francisco. C'est bien évidemment Djelo Biafra. Alors, on est toujours dans le do-it-yourself, et puis dans le politiquement très 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 engagé, hein. Donc Djelo Biafra, qui a été le leader de Dead Kennedys, puisque ce groupe existe encore, mais ils s'entendent pas très bien. Les chanteurs se succèdent, voilà, c'est un groupe qui maintenant est là surtout pour faire du blé plus qu'autre chose. Les Dead Kennedys d'origine, c'était pas ça du tout, donc des textes de Djelo Biafra toujours très très engagés politiquement, et puis surtout il a fondé le label Alternative Tentacles, donc qui est toujours vivace, hein, toujours actif, très actif de nos jours. Vous pouvez regarder sur internet leur site, il y a beaucoup beaucoup de sorties, pas que des rééditions d'époque. Ils ont sorti des centaines maintenant, je sais pas, ils doivent être à 200 albums, ils sortent des vidéos, ils organisent des concerts de beaucoup de groupes très différents, hein, de nos groupes fétiches. Vous avez pu remarquer, si vous avez écouté les deux premières émissions, No Means No est passé par, on ne peut pas faire une émission sans les citer quand même, est passé par Alternative Tentacles, et d'autres groupes plus ou moins connus qui ont eu plus ou moins de succès. Donc Djelo Biafra continue de jouer, de tourner avec d'autres groupes maintenant. Il a joué avec les Melvins en particulier, il a encore monté un groupe récemment. Même s'il a pris quelques kilos et perdu quelques cheveux, il est toujours très très actif politiquement. Donc le Do It Yourself, c'était un état d'esprit qui s'est imposé par lui-même, parce que de toute façon au départ, personne ne voulait de cette musique, tout simplement. Donc c'était une musique d'adolescent. Il fallait jouer dans des clubs qui, de toute façon, n'acceptaient pas forcément les mineurs, c'est-à-dire des clubs sans alcool aussi. Donc là, on aurait pu en parler avec Ian MacKaye et le Straight Edge. On fera peut-être une petite parenthèse tout à l'heure. Djelo Biafra et Dead Kennedys, donc, ont commencé à tourner comme ça. Leur côté radical a fait que, de toute façon, le fait qu'il ne soit pas accepté partout ne les a pas dérangés du tout. C'était aussi un refus de Djelo Biafra de participer à l'industrie musicale. Hein, tout simplement, ça a été dénoncé dès le départ. Donc, en montant sa propre structure, ça a pu fonctionner.
Aussi, on peut rappeler que, ou vous apprendre que Djelo Biafra, enfin les Dead Kennedys, ont une fois été récompensés, ou on voulait les récompenser, enfin, en les faisant passer à la télévision. Et on leur avait demandé de jouer un morceau très particulier. Ils sont arrivés sur le studio de télévision, tout ça était en direct à l'époque, bien sûr. Et au lieu de jouer le morceau prévu, enfin, ils ont commencé à le faire sur quelques mesures, ils se sont arrêtés, d'un coup. Et là, ils portaient des chemises blanches étranges avec un S dessus à la. Gravé la bombe ou marqueur, et ils avaient des cravates qui étaient dans le dos, ils ont mis leurs cravates devant, voilà, sur leur ventre, et ça a formé le signe de l'art. Et donc là, ils ont entamé une toute autre chanson qui n'était pas du tout prévue, qui était, je peux pas trop vous citer les paroles, elles sont mais bon, qui était je veux devenir ta marionnette, au sujet des majors qui contrôlaient la plupart des groupes de rock de cette époque. Donc voilà, c'est un groupe qui au début avait vraiment refusé de façon très claire et de façon assez active de rentrer dans une logique commerciale en signant dans de grandes maisons de production de disques. Voilà, donc vous pouvez écouter un morceau, on arrête de parler.
It's Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4. That's bugs, that's bugs, fuck off! If you're gonna fight, get out of here! You ain't no better than the bouncers! We ain't trying to be police, so you ain't the cops, it ain't anarchy! That's bugs, that's bugs, that's bugs, fuck off! That's bugs, that's bugs, that's bugs, fuck off! Then that's your point, what a man! They fight each other, the police, they win! Stab your backs and trash our holes! Trash your bank if you got real balls! They fuck the guys from school, realize things are new school. Like conscious faces, men and cops in the real force, they can be the first to go. That's bugs, that's bugs, that's bugs, fuck off. That's bugs, that's bugs, that's bugs, fuck off. You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go, unless you think.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous écoutez un jeudi noir un peu particulier, puisque deux de nos animateurs sont forfaits. Et avec José, nous avons décidé de nous consacrer à notre musique préférée, donc le hardcore américain des années 80-90. Comme vous avez pu remarquer, les morceaux sont assez courts. Donc nous avons essayé d'adopter un ordre un peu chronologique, c'est pas toujours facile. Donc là vous venez d'écouter Nazi Punks Fuck Off des Dead Kennedys. C'est une chanson qui fait allusion à des petits problèmes que pouvaient rencontrer les punks lorsqu'ils allaient dans les concerts, où ils tombaient sur des gens d'extrême droite qui aimaient bien leur taper dessus. Donc voilà, et maintenant on va vous passer un morceau d'un groupe un petit peu plus ancien. Je connais pas les dates exactes, mais c'est 74-75, c'est un groupe assez connu aussi, les Ramones, donc qui fait aussi partie de la, comment dire, de la des fondateurs du punk, fondateurs qui ne sont pas anglais, il faut quand même le rappeler, mais qui sont américains, et donc qui à ce titre sont assez importants. Voilà, donc un petit morceau des Ramones, à plus tard.
Let's go! Aye!
Voilà, donc nous venons d'écouter les Ramones avec un morceau, je pense que tout le monde connaît quand même, hein, Hey Oh, Let's Go, Blitzkrieg Bop. Donc voilà, un groupe assez particulier qui a beaucoup marqué. Alors maintenant, on voit les gamins de 4 ans qui ont des t-shirts Ramones dans tous les sens, les mannequins qui défilent avec leurs t-shirts Ramones. Mais à l'époque, c'était un peu plus crade que ça quand même, avec des membres avec une histoire parfois un peu particulière, avec un Didier Ramone en particulier, qui est l'auteur compositeur principal du groupe, qui a quasiment tout fait, dont j'aimerais bien chroniquer la biographie, un de ces quatre ici même d'ailleurs, très intéressante, qui raconte sa vie sur les terrains militaires avec son père en Allemagne et toutes ces dérives, on va dire toxique. Avec la colle toxique, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Tous ces abus, ces histoires, ces anecdotes, comme on peut imaginer les pires anecdotes possibles, les plus crades, voilà, c'est assez intéressant. Surtout, ça sera intéressant à comparer avec une biographie des Bébés Brunes ou quelque chose comme ça. Au niveau du vécu de ce genre de groupe-là, c'est assez hallucinant ce qu'ils arrivaient à vivre en un an. On pouvait en faire un bouquin, ce qui n'est plus tout à fait le cas avec tous les groupes de hardcore qui sont venus après, qui, c'est vrai, ont copié beaucoup, beaucoup le style. Hein. Il y a des milliers de groupes de hardcore à l'heure actuelle, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde. Mais là, on est vraiment dans une époque de création, où des gens arrivaient sur scène, hein, de toute façon, c'est le mythe du punk anglais aussi, hein, sans savoir jouer, balançaient quelques rythmes en étant complètement shooté. Et puis, ça a créé quelque chose. C'était neuf. Quelque chose à rajouter, Michel, à ce sujet ? Alors, on va passer à un autre groupe américain, très connu, qui a influencé énormément de groupes, surtout au niveau du son, qui est Husker Du. Alors, Husker Du, ils ont fait on va dire qu'ils sont les précurseurs de la noise punk. Et au tout départ, ils étaient très, très bourrins. Ils jouaient très, très, très vite. Un de leurs premiers albums est en live, donc le LP a deux faces, et on a l'impression que c'est un morceau qui n'en finit plus, très, 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 très chaotique. Donc, on va vous passer un petit morceau de cette époque-là.
Donc on vous a fait écouter deux morceaux de Oscar Dieu. Deux trois mots encore sur ce groupe assez particulier qui ne s'est jamais senti obligé de répondre finalement au conformisme du sous-groupe que pouvait constituer le punk américain. Dans le bouquin dont je vous parlais, Going Underground, Jean Churchala, il mentionne cet aspect quand même parfois un peu déplaisant de la scène hardcore, où finalement les gens qui ne ressemblent pas aux autres font tout pour se ressembler les uns aux autres à l'intérieur de leur petite communauté. Donc Oscar Dieu était un peu en dehors de tout ça, déjà parce que il donnait pas dans l'aspect viriliste qu'on a pu trouver dans d'autres groupes comme Black Flag ou comme même d'une certaine manière Men in Red, pour la bonne et simple raison que je crois, si je me souviens bien, qu'au moins deux d'entre eux étaient homosexuels sur les trois. Donc tous les trucs sur le punk grand et fort qui se bat dans la fosse en écoutant de la musique violente, ça le faisait pas pour eux. Ils s'en fichaient complètement. Et donc ils ont évolué de façon assez étonnante vers des musiques peut-être moins dures mais tout aussi intéressantes, en particulier dans un double album qui a beaucoup marqué les esprits, qui s'intitule Zen Arcade. Donc c'est un de leurs derniers albums, je crois, parce qu'après ils sont, si je ne me trompe, José me corrigera, ils ont essayé de passer chez une majors et ça s'est très très mal passé. Ils espéraient avoir un peu plus d'argent, un peu plus de temps et des moyens techniques supplémentaires, et en fait ils se sont retrouvés aux prises avec une espèce de gigantesque truc qui les empêchait de travailler comme ils voulaient et qui les empêchait de faire les morceaux qu'ils aimaient et qui au bout du compte était bien pire que le petit label qu'ils avaient quitté et qui avait moins de moyens. Donc ils ont été extrêmement déçus par cette expérience avec la major et ils ont vite arrêté cette espèce de mascarade. Donc maintenant on va vous passer un morceau un petit peu plus tardif, je crois, d'un groupe qui s'appelle Old Two, à deux L. Alors ça c'est un groupe que je connais pas, donc José, si tu veux en dire deux mots.
Oui, juste deux mots, hein. On peut retrouver mon producteur Bill Stevenson qui a tourné autour de Black Flag. Donc là on vous passe un album qui est de 89. All, pour ceux qui connaissent Descendants, hein, c'était deux groupes un peu jumeaux et parallèles. Voilà, écoutez un peu, là c'est un peu l'arrivée, on va dire. Bon, c'était pas les premiers, mais ceux qui ont vraiment eu un peu de succès dans le style mélodique, justement, puisque bien plus tard est arrivé ce côté hardcore mélodique. On écoutera Fugazi tout à l'heure, qui est un peu spécial là-dedans, mais il y a beaucoup de groupes qui ont joué du speed avec des petites mélodies souvent niaises d'ailleurs. Là c'est pas le cas, c'est assez sympathique. Donc All. Doggy.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir, donc émission spéciale musique, musique punk hardcore américain. À la suite d'une demande d'une auditrice qui se reconnaîtra, je pense, on va passer aussi un peu de hardcore féminin. Il paraît que c'est la journée. Donc, c'est un groupe qui s'appelle L7. Alors, je ne crois pas que ces joueuses-là, ces musiciennes s'inscrivaient dans un mouvement punk féministe qui s'appelait le Riot Grrrl, donc la révolte des Grrrl. Vous comprenez, Grrrl. Bon. Pour les filles, donc parce que c'est aussi un mouvement qui justement a permis des femmes de passer sur la scène, donc dans différents rôles, que ce soit à la basse, à la batterie, à la guitare ou au chant. Et c'est un petit groupe, ma foi, bien sympathique, enfin moi j'adore. Donc L7, Suzy is a headbanger, donc Suzy fait des choses avec sa tête, vous saurez quoi, c'est des filles qui chantent. Écoutez Radio Libertaire 89.4. Donc vous venez d'écouter un morceau de L7, un groupe donc de hardcore américain composé uniquement de femmes. Et maintenant on va vous passer un morceau d'un autre groupe, parce que dans ce mouvement il y avait aussi des gens qui savaient très bien jouer. Ils n'étaient pas tous adeptes du riff simpliste et ultra efficace qu'on adore. Certains avaient un très bon niveau technique, l'ont toujours d'ailleurs sans doute. Et ce groupe s'appelle Victims Family. C'est un groupe de la fin des années 80, avec un excellent bassiste, qui m'a beaucoup marqué. Et donc vous pouvez, c'est tiré de l'album White Bread Blues, et c'est un morceau qui s'intitule Anti-Satan Song for Mom, c'est-à-dire une chanson anti-Satan faite pour maman. Donc si vous avez une maman à côté de vous, amenez-la, elle sera ravie d'entendre une chanson peut-être anti-Satan, je sais pas.
C'est la fête des femmes.
Donc, José, quel mauvais goût. Voilà, donc Victim Sony.
Devil too, this song is for you, 'cause I'm the cat to make the bomb.
Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, toujours, avec des morceaux qui arrachent, hein, y a pas à dire. Donc, Michel vous disait qu'il y avait des punks qui savaient jouer. Bon, bah là, c'est un petit peu le cas, quoi. On voit le chanteur-guitariste qui est pas mauvais, le batteur, ça va, quoi. Il sait faire poum-poum, et le bassiste, ouais, il fait du glong-glong comme il faut, quoi. Donc, on vous a passé deux morceaux à la suite, parce que c'est bon. Et en plus, c'est court. Même si d'habitude, ce qui est court est pas forcément bon. Trêve de plaisanterie très fine et amusante. On vous a parlé tout à l'heure, puisque là c'est complètement décousu, hein, cette émission, à cause surtout du contre-amiral, hein, qui nous fait faux bon, donc on va essayer de rattraper le coup. Donc c'est un peu décousu au niveau chronologie, mais cela dit, ça se tient, puisqu'on reste malgré tout sur le thème du do-it-yourself. On vous a passé tout à l'heure un morceau de Minor Threat, et Michel vous a parlé de Ian McKay, donc fondateur du label Discord. Un de leurs groupes les plus emblématiques à ce label, c'était Fugazi, ou Fugazi, comme ils disent. Donc toujours avec ce fameux Ian McKay au chant, ainsi que Guy Picciotto qui chante également. Un groupe qui a énormément tourné, que nous avons le plaisir de voir en concert il y a fort longtemps, peut-être en 92. Donc il n'existe plus à l'heure actuelle. Qui se reformera peut-être un jour. Vous pouvez toujours trouver sur le site de Discord des lives, puisqu'ils collectionnent tous les lives enregistrés dans le monde entier. Il y en a des centaines. Ils les mettent en ligne à des prix toujours dérisoires. Voilà, on leur commande n'importe quelle année, n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Ils essayent de vous retrouver ça, ils vous l'envoient. Voilà, avec vraiment un petit mot sympa très souvent. Il nous est arrivé d'écrire à ce label-là, on a tout de suite eu une réponse, et c'est ce que font les petits labels encore aujourd'hui, comme vous le disiez. Michel tout à l'heure. Alors là, on se croirait un petit peu à Energy ou Skyrock, mais c'est toujours Radio Libertaire, la radio sans dieu ni maître ni publicité, puisque on a un public très féminin ce soir. On a encore une demande au téléphone d'une certaine Aïda qui demande un morceau de Fugazi. Ça tombe bien, on allait en mettre un. Donc le morceau s'appelle, il s'appelle Waiting Room, la chambre d'attente, la salle d'attente. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité, donc émission spéciale consacrée au hardcore américain, surtout le hardcore des origines. Donc là, un deuxième petit morceau de Fugazi avec Ian MacKay, voilà, vraiment qui peut être une très, très bonne icône pour le do-it-yourself, le faites-le vous-même. On aimerait vous parler également un peu des héritiers hein, de ce do-it-yourself, puisqu'il en existe encore. En France, on vous conseille en particulier un petit label distro, organisateur de concerts, qui s'appelle Et mon cul, c'est du tofu. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web. Moncul.org ou quelque chose comme ça. Tapez mon cul c'est du tofu, de toute façon il n'y en a pas deux. Vous pourrez leur commander des vinyles, des cassettes, des CD à un prix dérisoire. Les gars sont très sympas et font des productions de qualité. Voilà, vous pouvez aussi assister à certains de leurs concerts, en particulier à la Miroiterie, le plus vieux squat parisien, un lieu fort sympathique ma foi. Michel tenait à vous faire écouter aussi un de ces groupes fétiches qui s'appelle les... Je te laisse l'antenne.
Minute Men. Donc Minute Men avec aussi un très très bon bassiste. Là encore, il est encore actif. Donc c'est un groupe, vous allez voir, qui donne pas forcément l'impression d'être punk, a priori. Mais ils étaient dans cette mouvance-là. Ils étaient sur le label de Black Flag, un des groupes qu'on vous avait fait écouter un peu auparavant. Et c'est quelque chose, des morceaux très très courts, à certains égards très mélodiques. Vous allez voir, il n'a pas duré très très longtemps parce que le guitariste est mort dans un accident de voiture, façon un peu forcément brutale, comme dans tous les accidents de voiture il paraît. Donc voilà, on va vous passer quelques morceaux sans doute de Minute Men.
Juste un petit mot à propos du Do It Yourself, justement les Minute Men avaient une façon assez rigolote de le dire, ils appelaient ça du Econo Jam, donc on fait des concerts à l'économie, donc il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien, on se branchait direct sur les amplis, on n'avait pas de sous pour s'acheter un accordeur, mais on jouait quand même comme des dieux. Voilà, vous allez entendre ça tout de suite.
Donc c'était les Minute Men. Maintenant on va vous passer, pour terminer ce jeudi noir spécial musique, on va vous passer un autre morceau d'un autre groupe que j'aime beaucoup, un groupe new-yorkais cette fois qui s'appelle Alice Donut. On a eu aussi le plaisir et la joie de les voir en concert il y a quelques années de ça, dans les années 90. Donc c'est un morceau d'un album de 1990, Revenge Fantasies of the Impotent, et c'est un morceau qui s'intitule Rise to the Skin. Donc on se retrouve dans deux semaines avec peut-être le contre-amiral et Jean Mathias qui accepteront cette fois de nous parler de livres. José, un dernier mot ?
Bonne fête.